Devenir la meilleure version de soi-même. La maxime tendance martelée par les coachs en développement personnel. Et si finalement, c'était la pire décision à prendre? S'il existait une meilleure version de soi-même, ça voudrait dire qu'il en existe une moins bonne, voire carrément une pire version de soi-même. Et d'abord, on aurait droit à combien de versions de soi-même? 2, 3, 10, 1000? Pourquoi certains viennent-ils à penser qu'il existe une moins bonne, voire une pire version d'eux-mêmes? Et s'il existait une autre alternative plus saine pour votre santé mentale et votre épanouissement? Voici la troisième idée reçue du développement personnel qui m'agace profondément parce qu'aux impacts effroyables sur la santé mentale. À la fin de cet épisode, je vous partage une solution qui sera bien plus en accord avec votre écologie personnelle. Bonjour, c'est Mayannick et bienvenue sur le podcast On chemine ensemble. On chemine ensemble pour découvrir un trésor. Le trésor, c'est le vôtre, il est en vous. Aujourd'hui, si vous vous sentez bloqué, noyé, englué, ensemble, nous allons faire ce voyage intérieur vers ce que vous avez de meilleur, vous-même. Entre fiction, mon histoire, vos histoires, on chemine ensemble, c'est pour vous les talents qui s'ignorent encore, c'est aussi pour ceux qui se sont déjà lancés et qui souhaitent sortir de l'ombre. Dans chaque épisode, j'explore une idée pour vous accompagner vers une prise de conscience. J'adore provoquer des déclics. L'objectif, chorégraphier la vie personnelle et professionnelle que vous souhaitez pour vous. Une seule version de moi-même, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Évidemment que je peux devenir la meilleure version de moi-même. Si j'étais déjà la meilleure version de moi-même, j'aurais déjà tout ce que la société me demande d'avoir pour être comme tout le monde. Un travail où je m'épanouis, une relation stable, des enfants, un pavillon, un chien, une vie sociale. La base, quoi. Je ferais plus de salutations au soleil que de raclette. Non mais quand même, Mayannick. Heureusement qu'il existe une meilleure version de moi, sinon... À quoi bon? Je me contente de ce que j'ai, donc de peu. Je me résigne pendant que tout le monde avance autour de moi, alors que moi je reste planté là. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la cruche fêlée. En Chine, un porteur d'eau transportait deux grosses cruches. Elles étaient suspendues aux extrémités d'une solide barre de bois, reposant sur ses épaules. L'une d'elles était fêlée. Pendant qu'une cruche conservait parfaitement toute son eau à la fin de la longue marche, depuis le ruisseau, l'autre perdait la moitié de sa cargaison en chemin. Tout se passa ainsi, jour après jour, pendant deux années entières où le porteur livrait seulement une cruche et demie d'eau à chacun de ses voyages. Évidemment, la cruche qui était sans faille se montrait très fière de son travail parfaitement accompli. Mais la pauvre cruche fêlée était honteuse de son imperfection et malheureuse du fait qu'elle ne pouvait accomplir que la moitié de ce qu'elle était supposée produire, la moitié de ce que l'on attendait d'elle. Après ces deux années de ce qu'elle percevait comme étant une faillite totale de sa part, un jour, près du ruisseau, elle s'adressa au porteur d'eau. « J'ai honte de moi-même et je te prie de m'excuser. »« De quoi as-tu honte ?» demanda le porteur d'eau. « Je me sens coupable. À cause de cette fêlure à mon côté, je ne réussis qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, mais tu ne livres que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas le fruit de tes efforts à cause de moi. » Le porteur d'eau, touché par cette confession, lui répondit. « Ne songe plus à cela et, pendant que nous retournons au village, regarde les fleurs magnifiques au bord du chemin. » Sur le chemin, la vieille cruche vit de très jolies fleurs baignées de soleil. Et cela lui mit la joie au cœur. Mais elle se sentait toujours aussi coupable, car elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau lit alors à la cruche. As-tu remarqué qu'il y avait des fleurs seulement de ton côté du sentier et non sur le côté de l'autre cruche? C'est que j'ai toujours été conscient de ta fêlure et j'en ai tiré parti en plantant des semences de jolies fleurs seulement de ton côté du sentier. Et chaque jour, durant notre retour, tu les as arrosées. Durant ces 2 années, j'ai pu cueillir ces jolies fleurs pour décorer notre table. Si tu n'avais pas été comme tu l'es, nous n'aurions jamais eu cette beauté qui a égayé notre maison. Pourquoi certains en viennent à penser qu'il est nécessaire de devenir une meilleure version de soi-même, voire carrément quelqu'un d'autre? Dans le monde dans lequel nous vivons, tout nous pousse sans cesse à nous améliorer. Soit plus performante, plus heureuse, soit en meilleure santé, plus riche, soit plus productif, plus sexy. Notre société de consommation nous invite à vouloir toujours plus, posséder plus, faire plus, tout le temps, pour avoir une meilleure vie. Dans cet environnement, nous sommes sans cesse invités à rechercher le bonheur, à faire partie à tout prix de ceux qui réussissent. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour nous faire focaliser sur ce qui nous manque, comme un rayon laser qui pointe sur nos défauts, nos erreurs, nos échecs? Les médias sociaux sont en mode « regarde ma vie comme elle est cool par rapport à la tienne » et notre société nous demande de plus en plus d'être compétents et performants. Les deux se sont alliés pour produire une génération de personnes qui sont persuadées qu'il ne faut surtout pas éprouver d'émotions dites négatives telles que la tristesse, la peur, la honte, la culpabilité ou l'anxiété. Une génération de personnes qui courent sans cesse après le bonheur. La meilleure version de vous-même, elle serait que positive. Uniquement cela. Nous sommes bombardés d'images d'inconnus, d'amis, qui sont là sous leur meilleur profil, à vivre tout ce que nous souhaiterions. Comment ne pas se dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas chez nous? Selon le philosophe Alan Watts et sa loi de l'effort inverse, plus nous recherchons à nous sentir mieux, moins nous nous sentons bien. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir tellement seul et triste que le simple fait d'y penser vous fait sentir encore plus seul, encore plus triste? Vouloir obtenir quelque chose ne ferait que renforcer notre sentiment de manque. Plus nous désirons une chose, moins nous éprouvons de satisfaction. Plus nous souhaitons être riches, plus nous sentons le manque d'argent, peu importe notre situation financière. Plus nous avons envie d'être aimés et plus nous nous sentons seuls, même si nous sommes avantageusement entourés. Selon Alan Watts, tout ce qui en vaut la peine s'obtient en consentant à surmonter l'expérience négative associée. Tenter de fuir, d'empêcher les expériences négatives, produit l'effet inverse. L'évitement de la souffrance produit de la souffrance, le déni de l'échec, encore de l'échec. Dissimuler ce qui est vécu comme honteux alimente encore et encore le sentiment de honte. N'avez-vous pas remarqué que parfois, quand on se préoccupe moins de réussir quelque chose, finalement, on le réussit mieux. Quand on cesse d'avoir la tête dans le guidon, tout s'éclaire miraculeusement. C'est la loi de l'effet inverse. Elle fonctionne à rebours. Si la recherche du positif entraîne du négatif, alors la recherche du négatif devrait engendrer du positif. C'est en bavant à la salle de sport que l'on améliore sa santé en général. C'est souvent quand on se trompe, qu'on échoue, que nous comprenons mieux ce qui nous a manqué pour réussir. La vie est tissée de fils de souffrance difficiles à dénouer. S'évertuer à ignorer la souffrance revient à lui conférer une importance démesurée. Sans le savoir, nous subissons les conséquences de pensées que nous nourrissons sur nous-mêmes, les autres, le monde, et c'est comme ça depuis notre enfance. Ces pensées sont aussi appelées croyances, croyances aidantes, structurantes, quand elles participent à notre épanouissement, croyances limitantes, quand elles bloquent nos aspirations. Qu'est-ce qui explique notre difficulté à prendre la parole en public, alors qu'une autre expérience sera vécue avec confiance et aisance. Certaines fois, nous nous lançons dans quelque chose, c'est facile, ça coule de source, nous ressentons des émotions agréables liées à l'expérience. Si par contre, vivre l'expérience devient difficile, on procrastine, on tourne en rond, on a du mal à y aller. Ça vous parle? Pensez à une expérience, à un rêve, un projet que vous souhaitez vivre en ce moment. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Comment réagit votre corps en y pensant? Mal au ventre, boule dans la gorge, respiration limitée? Si vous commencez à sentir quelque chose de pas très cool, si vous commencez à vous dire « j'irai bien, ça serait bien, un jour, pourquoi pas », il est très probable que ce qui vous empêche de passer à l'action soit dû à une croyance limitante, une conviction souvent inconsciente sur nous-mêmes, les autres, le monde. Elles sont profondément ancrées en nous et nous, nous regardons tout à travers ce prisme. Elles se construisent au fil de nos expériences, de nos interactions avec le monde extérieur, soit en fonction de nos conclusions tirées de ces expériences, soit dans notre environnement familial et culturel. Dans tous les cas, elles se renforcent et se généralisent dans le temps. Petit à petit, ces croyances deviennent notre réalité. Et ce n'est pas tout. Certaines de nos croyances font naître des injonctions que l'on se fait à soi-même ou que l'on voudrait que les autres appliquent. Le psychologue américain Taibbi Kaler a identifié 5 d'entre elles sous le nom de driver. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi. Les drivers sont des messages qui, à force d'être répétés, influencent inconsciemment notre comportement depuis notre enfance. Chaque personne posséderait 1, voire 2 drivers dominants. Sois parfaite peut amener des exigences trop élevées avec soi et les autres, de la procrastination par peur de mal faire, d'échouer. Pourtant, elles ont pour rôle de nous éviter la souffrance, de ne pas être aimées, d'être rejetées ou abandonnées. Si je suis parfaite, on va m'aimer, je vais exister, je me sentirai utile. Mais oui, rappelle-toi, tu vois bien comme papa était content quand tu lui faisais plaisir. Les croyances sont comme des programmes qui tournent en pilotage automatique en lien avec notre système nerveux. Dans chaque adulte, il y a un enfant qui cherche à coller aux attentes d'autrui pour être aimé, reconnu et en sécurité. Depuis notre naissance, toutes nos expériences bonnes, mauvaises, voire traumatisantes, sont stockées dans notre mémoire en lien avec notre système nerveux autonome. Si la vie nous propose des expériences similaires à ce qui a été souffrant ou qui entre en résonance, notre système nerveux va s'arranger pour mettre en place des stratégies de protection. Il a repéré dans notre vie toutes les expériences qui pourraient ressembler à ce qui nous a fait souffrir, sans nous mettre au courant. Pour se protéger des souffrances liées à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à la trahison, à l'injustice, notre cerveau nous fait développer des habitudes, des stratégies dont nous aimerions bien nous débarrasser. On peut parler des addictions, qui tentent de nous apporter un soulagement temporaire, des hyperréactions émotionnelles liées à la colère et à la peur. On peut aussi évoquer le stress chronique, l'anxiété, les phobies, les crises d'angoisse, de panique, mais également la dévalorisation de soi, la procrastination, le syndrome de l'imposteur. Ces mauvaises habitudes sont en fait des attitudes protectrices. Les croyances limitantes sont nommées ainsi à tort. Ces convictions souvent inconscientes que nous avons sur nous-mêmes, les autres, le monde, et qui soutiennent ces mauvaises habitudes, cherchent à nous protéger et à nous éviter de souffrir. On devrait les appeler des croyances protectrices. Donc oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui cloche en vous, mais ce n'est pas vous. C'est votre système nerveux autonome qui est déréglé. Dérégulé, plus exactement. Il perçoit de l'insécurité là où il n'y en a pas. Nous passons notre temps à nous protéger, à cacher ce que nous pensons que les autres voient de nos faiblesses, de nos manques. Inutile de devenir la meilleure version de soi, puisque tout est déjà là. Oui, oui, Miss Perfection qui veut toujours faire plaisir, c'est un personnage que mon ego a créé pour m'éviter la souffrance, pour que la petite fille se sente en sécurité affective. Ce n'est pas moi. Qui je suis, c'est beaucoup plus large que ce que je perçois de moi. Finalement, on n'a plus besoin de devenir une meilleure version de soi-même. C'est cool, non? Pour atteindre ses objectifs, pour avoir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres, il suffit que notre système nerveux autonome soit régulé afin qu'il se sente en sécurité le plus souvent. Nous vivons nos vies souvent en mode survie, avec un système nerveux autonome dérégulé, en état de stress chronique. Le docteur Stephen Porges, professeur en psychiatrie, créateur de la théorie polyvagale, a inventé le terme de neuroception. Cela décrit la manière qu'a notre système nerveux autonome de rechercher des indices de sécurité, de danger, de menaces vitales, sans impliquer les parties conscientes de notre cerveau. Plus notre corps perçoit des indices d'insécurité, de danger, plus nous sommes stressés, en état de stress chronique. Très souvent, les gens n'ont pas conscience d'être stressés, et encore moins de ce qui les stresse. Certaines stratégies de protection sont tellement ancrées en nous que nous finissons par penser que c'est la normalité. Éviter les conflits, les endroits clos, fréquenter majoritairement des gens qui ne pensent que comme nous. Cela a quelles conséquences ? Celle de vivre une grande partie de notre vie en mode survie. Cette cruche fêlée, elle se raconte une histoire. Puisqu'à cause de moi, le porteur d'eau ne livre qu'une partie de son eau, je suis imparfaite. Nous passons notre temps à nous raconter des histoires sur nous-mêmes et les autres. Sans même que nous le sachions, elles limitent nos choix, nos relations, et par conséquent, elles limitent nos vies. Selon moi, c'est donc de se raconter une vilaine histoire que de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. Nous sommes tous des cruches fêlées. Nous sommes tous imparfaits. Nos imperfections font de nous des êtres humains. Nous sommes tous des porteurs d'eau, avec nos qualités, celle de la cruche parfaite qui remplit totalement sa fonction, et avec nos défauts, ceux de la cruche fêlée qui remplit sa fonction à moitié. Nous focalisons très souvent sur les défauts, interprétons ce que les autres peuvent bien penser de nous. Nous avons tendance à nous juger, à juger les autres, toujours à focaliser sur ce que nous percevons comme des défauts. S'accorder le droit de vivre des expériences, d'évoluer, de grandir, d'apprendre de ses erreurs, de ses échecs, et surtout de s'aimer tel que l'on est. Je suis persuadée qu'il n'y a qu'une seule version de nous-mêmes. Notre personnalité est composée de plusieurs facettes. Les découvrir, les explorer est, selon moi, la clé d'une vie épanouie et de la réalisation de soi. Je l'ai constaté au cabinet avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Une fois que le cerveau est libéré des programmes de survie de nos blessures émotionnelles, qui tournent en tâche de fond à notre insu, on peut commencer à explorer toutes les facettes de sa personnalité pour laisser émerger tous les trésors qui se trouvent déjà à l'intérieur de soi. Révéler le meilleur de soi plutôt que devenir le meilleur de soi. Juste un mot qui change tout. Notre cerveau mémorise beaucoup plus de détails lorsqu'on en a des émotions fortes, agréables ou désagréables. C'est sa manière à lui de nous aider à nous souvenir des faits importants. C'est une façon pour le cerveau de ne pas surcharger notre mémoire avec trop d'informations inutiles. Le revers, c'est que cela peut cristalliser en nous des pensées dont nous faisons une réalité, alors que cela ne l'est pas. Voilà, merci pour votre écoute. Pas toujours facile d'avancer sur le chemin de la connaissance de soi, de trouver sa voie. Alors cheminons ensemble, chacun sur son propre chemin. Soyons plus conscients de nous-mêmes, de nos besoins, plus responsables de nos choix. Si vous avez des questions, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, mayanique.remire.mcs, ou sur ma page Facebook, Mayanique Remire, coach et thérapeute. Cet épisode est disponible sur le site mayanicremire.com et sur vos plateformes de podcast préférées. Je vous invite à partager ce podcast aux talents qui s'ignorent que vous auriez identifiés dans votre entourage. À bientôt les talents.